Nous sommes au bord du Rhin, dans l'Herme. Il ne fait pas très beau, mais les enfants jouent dans le parc. Sur l'eau, les bateaux se succèdent, transportant tantôt des touristes en croisière, tantôt des conteneurs en direction de Rotterdam et de la mer du Nord. Et aujourd'hui, dans le cadre de leur diplôme à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, Alice, Emmerich, Élise, Gaël, Joris, Théo et Tom nous exposent leur vision pour une union climatique. Ce projet propose de décaler notre regard sur le territoire et de faire des enjeux climatiques des moteurs de projets à la fois architecturaux, urbains et paysagers. En prenant le Rhin comme cas d'étude, ils imaginent une géométropole. Un lieu des possibles entre nature et culture, entre histoire et géographie. On espère que ça vous plaira. Donc bonne écoute.
Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour la première assemblée climatique. Donc on est au niveau du kilomètre 589. Donc c'est 589 kilomètres avant le départ de la géomobilité qui se situe à Bâle. Donc comme disait Élise avant, le Rhin est un peu... c'est un peu comme si le Rhin était gradué avec ces kilomètres-là. Et nous voilà, on est venu ici dans le Rhin moyen, donc qui est là à peu près, on est à Coblenz, donc à peu près au milieu du Rhin navigable, pour voir à quoi ça ressemblait en fait le Rhin dans cette région-là qu'on connaît moins que le Rhin supérieur.
Est-ce qu'on peut faire un peu une aparté sur ce que c'est cette assemblée climatique? Pourquoi est-ce qu'on est rassemblés ici pour la première fois un peu? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Quels sont un peu les enjeux de cette première assemblée?
Je ne sais pas si avant de commencer sur l'assemblée climatique, il faudrait commencer aussi sur ce qu'on a créé. Enfin, on l'a créé, mais surtout ça s'est créé grâce à ce qu'on a appelé le tiers atelier. Donc c'est la réunion de nos 7 têtes pensantes afin de créer et de pouvoir créer en toute liberté autour du diplôme qu'on a à faire normalement. Et on voulait surpasser ça puisque c'est quelque chose qu'on est censé faire seul ou à deux. Et nous, on voulait, comme notre dernier passage à l'école, pouvoir le faire tous ensemble et avec nos règles et pouvoir en fait avoir toutes les libertés possibles pour donner, on va dire, corps à ce qu'on imaginait pour les architectes du futur.
Mais en vrai, pour revenir sur l'Assemblée climatique, je pense que les premiers dessins qu'on a faits, c'était un peu aussi en lien avec le fait de vouloir se réunir, du fait qu'on l'a fait à 7. Le fait d'avoir fait ces collages de réunions entre plusieurs personnes qui venaient pas forcément qui venaient de partout en Europe et des premières questions qu'on a posées par rapport à l'union climatique, etc. Je pense que ça a déroulé un peu du fait qu'on ait voulu se rassembler pour faire le PFE et que ces premiers lieux qu'on a dessinés, ces premiers dessins de projets réels, ça a été des lieux de réunion, ça a été des lieux d'assemblée.
Et aussi surtout, pour expliquer ce que c'est que l'assemblée climatique, ça vient aussi de ce qu'on a créé en tant qu'union climatique, qui au départ du travail de notre diplôme est une volonté en fait de réagir sur les enjeux environnementaux et climatiques auxquels on est confronté constamment, et surtout notre génération à l'heure actuelle. On l'a vu avec les rapports du GIEC qui sont sortis encore plus dernièrement. Et donc en fait nous on a voulu créer donc ce qu'on a appelé l'union climatique, qui se veut être comme un nouveau calque de l'Union européenne, qui prône en fait une vision du territoire selon les enjeux climatiques et non plus les frontières politiques, économiques. Et donc à partir de ce moment-là, on a essayé d'imaginer comment est-ce que nous, en tant que jeunes étudiants en architecture, à travers un diplôme de PFE, on pouvait un peu sortir, on va dire, pas forcément sortir, mais pousser les limites ou le cadre que le PFE nous donnait pour aller nous interroger sur des questions comme le climat. Et donc à travers l'union climatique et les assemblées, on crée des lieux en fait de réflexion sur ces interrogations-là, et on essaye de nous, de notre point de vue d'architecte, proposer des solutions à notre manière sur les problèmes environnementaux et climatiques actuels. Voilà.
Et aussi on a travaillé pendant ces 6 derniers mois sur
différentes morphorégions qui composaient le bassin versant du Rhin. Et on est du coup dans la morphorégion du Rhin moyen. Et en fait, on l'utilise vraiment pour ce qu'elle est, parce que la morphorégion du Rhin moyen, c'est une morphorégion qui est en partie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en fait, son paysage est assez atypique le long du Rhin. Le Rhin est très sinueux et se compose est entouré par des falaises autour où on peut trouver différents châteaux tout le long. Et en fait, c'est une des parties qu'on appelle même le Rhin romantique parce que elle a été le cadre de beaucoup de poèmes d'art allemand. Et du coup, on l'utilise pour ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un cadre, un paysage. Et en fait, c'est aussi assez symbolique de faire une assemblée climatique dans un endroit où la nature est assez présente, où le cadre est assez vecteur de nouvelles recherches d'art et de pensée.
Et surtout, cette morphorégion par rapport aux cinq autres qu'on a déjà traitées en tant que vraiment une intervention architecturale ou urbaine, et qu'on a traitées avec les outils qu'on connaît, c'est la partie un peu cette partie qui a inspiré, on va dire, la littérature et ce côté assez romantique. On s'en est emparé pour nous avoir une forme de réflexivité sur notre travail et pouvoir prendre un peu de temps pour mettre, on va dire, en page notre histoire et le début de notre histoire, parce que ce tiers-atelier et ce PFE, c'est un début de ce qu'on va potentiellement faire dans 10 ans, dans 2 ans ou même dans 6 mois si l'opportunité s'en présente. Et donc c'est pour ça on retrace un peu ces chemins-là, on se balade et on décide de parler un peu de notre expérience de 6 derniers mois et la création de ce tiers-atelier.
Même méthodologiquement, pour nous, c'était important à un moment donné dans notre travail de venir sur le terrain, en fait, et de se confronter vraiment aux territoires sur lesquels on travaille. Donc on peut pas aller sur tous les territoires le long du Rhin sur lesquels on planche, mais venir à Coblence ici, c'était une manière pour nous de rencontrer une partie du territoire sur lequel on travaille, et de donc au bord du Rhin vraiment ici, de confronter les idées et les recherches qu'on mène depuis le départ.
Pour aussi un peu parler après aussi du projet et aussi avoir un peu la vision globale qu'on a essayé aussi d'aborder pendant les 6 mois de travail, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir à chaque fois des visions décalées un peu du territoire, comment est-ce qu'on arrive à chaque fois à aller un peu sur autre chose, prendre une vision existante et aussi avoir un peu... D'autres chemins de pensée. Par exemple, une des premières cartes qui nous avait le plus intéressé, c'était une des cartes sur le tracé un peu des climats en Europe. Et finalement, c'est un peu une des cartes qui nous a suivis jusqu'à la fin de notre diplôme. C'est un peu un document qui montre l'Europe sous une autre vision, sous un nouvel aspect. Et je trouve que c'est un peu ça aussi qu'on a essayé à la fois de retranscrire dans les analyses et dans l'analyse du territoire qu'on a pu faire en abordant des sujets assez vastes et variés, parfois même un peu qui sort un peu des sentiers battus, à la fois dans des questions d'usage de territoire, de vision du territoire et comment se le réapproprier. Et c'est peut-être aussi ça qui est important dans l'endroit où on est à Coblence, c'est que c'est un territoire qui est utilisé d'une seule et unique manière pour le tourisme. Finalement, on l'a vu aussi là, les quelques jours où on est ici, c'est qu'on a du mal aussi à sortir des sentiers battus, à le voir sous une autre vision. Et c'est ça aussi des fois qu'il faut réussir à faire, c'est un peu sortir de ce qu'on connaît, surtout de ce qu'on nous a appris, parce que c'est aussi ça qui est dur dans ce diplôme, c'est de sortir aussi de tout ce qu'on nous a appris sur les façons de faire de l'architecture, de faire de la ville, du paysage, et d'apporter un peu un regard, si je puis dire, neuf ou frais, un peu jeune sur des questions contemporaines, et surtout dans des questions qui touchent au climat, en fait, qui sont presque les questions qui nous touchent le plus, nous, dans notre génération, et qui sont vraiment au cœur de... Si on oublie un peu le Covid, mais finalement, Covid et le climat, c'est un peu souvent lié, mais mais c'est un peu les questions qui nous touchent aussi directement.
Pour revenir sur le lieu où on est là, enfin, cette semaine, c'est aussi assez marquant de voir le nombre de personnes qu'on croise qui est une majorité de touristes. Et on croise énormément de touristes qui sont sur des bateaux de croisière, une population assez âgée sur des bateaux de croisière sur le Rhin. Et dès qu'on sort justement de ces lieux touristiques, de ces lieux un peu mythiques, par exemple à Coblence, la pointe de la place entre la Moselle et le Rhin, le rocher de la Lorelei, on tombe dans des villages où il y a très très peu de population, ou même dans Coblence, on tombe dans des zones de la ville où on voit beaucoup beaucoup moins de monde. Et c'est assez marquant, je trouve, de la ville et de l'endroit où on est. C'est que tous les endroits touristiques, on va vite croiser du monde. Mais par contre, il y a relativement peu de population en dehors de ces lieux-là. Et c'est assez marquant de ce territoire et justement de cette vision qu'on a un peu de cette morphorégion qui est extrêmement touristique.
C'est assez marrant en vrai, bon, je sais pas si c'est trop le sujet, mais c'est pas grave. C'est assez marrant en fait de voir comme les touristes en fait ont pu aussi... Enfin, l'action touristique est peut-être aussi un habitat, comment dire, éphémère en fait du Rhin par rapport à tous les villages qu'on a pu croiser jusqu'à présent. En fait, on a croisé que des villes mortes quasiment, qui sont vidées de leurs habitants, qui sont là où, tous les jours de l'année. Et en fait, on croise juste des espèces d'immeubles flottants qui traversent ces paysages en disant comme nous quoi, à se dire qu'est-ce qu'elles sont belles ces maisons, ou qu'est-ce que c'est chouette la Lorelei. Mais en fait, ça n'apporte aucun dynamisme dans les petits villages qui sont le long. Donc c'est assez étonnant, en vrai, comme constatation sur le terrain. Moi, je m'attendais pas à ça, quoi. Genre, c'est un peu là aussi, on voit que entre ce qu'on a pu voir sur Google Maps et entre ce qu'on a pu voir en réel, on a quand même pas la même impression, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ça.
En fonction de comment tu utilises le Rhin. Je trouve qu'il y a vraiment cette espèce de paradigme où nous, dans notre travail depuis plusieurs mois, on voit vraiment le Rhin comme un vecteur de lien, parce que c'est la manière dont on le met en avant et c'est la manière dont on veut l'exploiter, parce que c'est pas ça, mais donc la manière dont on veut le mettre en valeur et l'utiliser. Alors que là, à travers le tourisme, c'est vraiment une mise à distance. C'est-à-dire que le Rhin, ça permet d'être d'être au milieu des choses, au milieu de ce paysage, mais en même temps d'en être loin et de pas du tout avoir de contact avec, quoi. Donc il y a vraiment un côté muséifié du territoire. Et c'est ça qu'on venait chercher aussi, entre guillemets. Mais...
Et pourtant, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est aussi presque la partie du Rhin où il y a le plus ces questions aussi d'inondations un peu dévastatrices qu'il y a pu y avoir cette année. Et c'est ça aussi un peu le... Chaque fois, ce double penchant du Rhin, ça a aussi la beauté que ça peut y avoir et en même temps le danger. Du coup, cette question d'en être proche et d'en profiter et de s'en éloigner de peur qu'il ne déborde ou d'essayer de le contrôler, toujours contrôler cet environnement naturel, mais toujours. Je trouve que c'est une question qui se retrouve vachement ici, quoi. Je sais pas ce que tu voulais dire, Théo.
Moi, c'était surtout ce qui est frappant par rapport à notre région, donc par rapport au Rhin supérieur ou même celle qu'on a regardé, comment les Pays-Bas traitent aussi le Rhin et dans la Ruhr, c'est que là, on est vraiment dans la carte postale le bucolique, le romanesque, et sur toute la partie du Rhin romantique qu'on a fait pour le moment, on n'a croisé aucun gros port, on voit des péniches passer avec des matériaux, avec du gaz. Mais on voit très peu d'industrie, alors que quand on passe à l'entrée de Bâle, quand on voit le port au pétrole de Strasbourg, ou de Karlsruhe, Mannheim, cette zone-là est en fait très peu touchée par l'activité industrielle ou l'activité commerciale, et elle remplit vraiment son... Enfin, on savait ce qu'on venait chercher, et finalement je ne suis pas étonné de ce qu'on a trouvé, ce côté carte postale où c'est presque figé dans le temps d'un Rhin qu'on veut présenter, vraiment des petites maisons à colombages allemandes, des châteaux perchés et de la nature. Et on le voit même dans la ville de Coblence, en fait, il n'y a pas un gros port, quoi. Alors que toutes les villes le long du Rhin, qui sont quand même assez grosses, sont des ports avec des tailles assez conséquentes.
Surtout que Coblence est quand même situé à la confluence de la Moselle et du Rhin, et que c'est quand même deux gros fleuves en Europe. qui permettent quand même un trafic fluvial assez important. Mais c'est vrai que quand on était justement entre ces falaises, dans, au sein même du Rhin romantique, tu remarques juste l'activité un peu qui se passe des deux côtes, des deux autres côtés du Rhin, juste avec le fait qu'il y ait les péniches, les porte-conteneurs qui passent. Sinon, tu ne remarques pas ça. Il y a juste les petits bacs qui font les allers-retours entre les deux berges du Rhin, mais c'est à peu près tout. Mais par contre, moi, ce qui me marque quand même sur les phénomènes des inondations qu'il y a eu là, ces derniers mois en Allemagne et aussi en France, c'est...
Et en Belgique aussi.
C'est que cette partie du Rhin qui est quand même... Enfin, qui pourrait quand même être inondée, n'est pas du tout justement parce qu'elle est protégée par son, sa canalisation naturelle, alors que la Moselle qui est juste à côté a complètement, complètement débordé. Alors qu'on le voit, les communes proches de Coblence qui ont été inondées, c'est pas à cause du Rhin, c'est vraiment à cause de la Moselle.
C'est assez fou, je trouve, parce qu'on sent pas du tout... Enfin, on a très peu de reste en fait, des inondations, en tout cas à Coblence. On n'a pas vu... on a vu quelques feuilles qui étaient pleines de terre, mais à part ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de constatations ou de choses dans le genre. Et c'était pas ça que je voulais dire. Bref. Bon, c'est pas grave.
Mais de manière plus générale aussi, ça soulève autre chose sur laquelle on a travaillé et qui est une vision particulière du territoire. C'est-à-dire qu'à Coblence, là, on va dire le paysage qui est magnifié et qui est reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est soulevé par ces catastrophes naturelles dues aux inondations, c'est qu'en fait c'est un territoire qui paradoxalement en fait se détache énormément du Rhin et va pas du tout, enfin ne fait pas avec dans notre projet ou dans le travail qu'on a essayé de mener. C'est quelque chose sur lequel on s'est pas mal attardé, ce rapport en fait au territoire dans lequel on essaye d'avoir une vision beaucoup plus entre guillemets harmonieuse, de
mélanger,
plus complexe. En fait, de manière générale, dans notre travail, même ce que disait Gaël tout à l'heure par rapport au diplôme de PFE, c'est vraiment une vision pluridisciplinaire et complexe de ce que ça va être le territoire, de ce qu'est la vie de manière générale, l'implantation humaine. Et donc ici, à Coblence, ça se voit particulièrement, et notamment ces dernières semaines, avec ces catastrophes naturelles, c'est qu'en fait, on a un territoire qui n'est pas... c'est pas qu'il n'est pas adapté, mais en fait, qui ne prend pas vraiment en compte le milieu dans lequel il s'implante, et en fait, qui fait que le contempler, le magnifier, qui a des avantages aussi, parce que ça a permis au Rhin de pas être canalisé, ce genre de choses. Mais d'une autre part, l'implantation humaine et la vie que les gens y mènent ici, elle n'est pas du tout en rapport avec le territoire dans lequel ils se sont implantés. Et c'est quelque chose qu'on a pointé dans notre travail sur quasiment l'intégralité du Rhin et qui pourrait être pointé sur, je pense, quasiment l'intégralité des implantations humaines. Et c'est un point sur lequel on aime travailler justement pour proposer des visions qui changent ce rapport-là, en fait.
Je voulais juste directement à ce qu'André a dit après. Je pense que ça révèle aussi un peu, en parlant du tir atelier en général, de ce que nous on pense aussi de. J'attends juste que le vent passe.
C'est le vent qui parle.
C'est le vent nous parle. Ce qu'on pense peut-être même en général et qu'on aime bien dire aussi, c'est qu'on n'est pas. L'architecture peut-être aujourd'hui et comme on nous l'a enseigné aussi, on fait pas seulement de l'architecture, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye aussi un peu de mélanger toutes les disciplines en général et qu'on est plus pour une vision pluridisciplinaire de notre profession, de ce qu'on aimerait bien faire par la suite aussi dans notre travail plus tard. Et ce qu'on aimerait bien aussi proposer dans le diplôme, c'est que à la fois on pourrait se rapprocher d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, mais aussi d'écologie, enfin d'écologues, de géologues, d'agriculteurs, de tous ces trucs-là. Et c'est tout ça un peu qui fait aussi la gestion du territoire et de l'architecture en général, quoi.
Sans forcément se qualifier d'expert dans tous ces domaines, mais simplement ouvrir la plus grande palette d'outils possible. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous a habitués à faire jusque-là.
C'est tout. En termes de ressenti du territoire aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup dans le projet, un des éléments un peu majeurs du projet, c'est la géomobilité, du coup qui replace le Rhin, qui redonne une dimension quotidienne au Rhin. une dimension plus appropriable dans laquelle on s'arrête, on vit des choses sur le Rhin, alors que là, actuellement, en fait, un truc qui est assez frappant, je trouve, c'est que le Rhin, enfin moi, je vois ça comme une infrastructure, comme une autoroute un peu, où aujourd'hui, il y a énormément de trafic, mais c'est effet tunnel, quoi. Personne ne s'arrête, que ce soit pour le tourisme ou pour la marchandise. Comme disait Théo, il y a zéro port. En vrai, on a vu très peu de bateaux de croisière s'arrêter. Et donc, on a un rapport avec le Rhin qui est, une fois de plus, uniquement de l'ordre de la contemplation, quoi. Et donc, c'est là où je trouve que, ouais, effectivement, redonner une dimension quotidienne au Rhin avec la géomobilité, ça prend du sens, quoi, dans le projet, quand on voit aujourd'hui comment c'est utilisé, quoi.
Du coup, quand on a lancé tout notre travail autour du Rhin, enfin, l'abord n'a pas été le Rhin d'abord, ça a été l'Europe et trouver comment est-ce qu'on arrivait à trouver notre propre vision dans ce qu'on faisait. On a décidé de lancer une analyse à plein d'échelles. Donc, on avait commencé par l'Europe et grâce à l'Europe, on a trouvé justement les bassins versants et on s'est intéressé à celui du Rhin vu que c'était celui que on voyait quotidiennement. Et autour de cette analyse, on a développé 4 axes. Et le premier qui nous a beaucoup fait parler et beaucoup réfléchir, c'était autour des réseaux naturels et infrastructures humaines. Et on s'est beaucoup intéressé à ce qui se passait autour du Rhin, tout ce qui se passait sur le Rhin, autour du Rhin, et que ce soit en termes naturels de ce qu'on a créé. Et ça nous permet de nous lancer justement, et ça a commencé presque aussitôt le projet, en fait, de se demander comment on allait pouvoir se servir de ce Rhin en projet et créer peut-être une nouvelle mobilité, une géomobilité justement, et à quoi elle allait ressembler.
Par rapport à cette géomobilité qu'on a créée sur le Rhin, en fait, c'était donc comme le disait Joris avant, c'était de retrouver une quotidienneté le long des réseaux existants naturels, donc de l'eau. Et en fait, ce réseau naturel, en fait, c'était de l'utiliser pour ce qu'il est, et en fait d'utiliser donc les courants de l'eau, ou d'utiliser les infrastructures existantes avec les ports, les différents ports, que ce soit de plaisance, les ports marchands aussi, de les reconnecter, non pas juste au niveau marchand, mais tout le long du Rhin, du coup, avec un transport de personnes et d'habitants de ce bassin versant. Et ça permettait, en fait, de recréer un nouveau calque de lecture du territoire selon le cours d'eau et, en fait, du déplacement le long de ce cours d'eau. Et en fait, ici à Coblence, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a plein d'endroits où on s'est dit « Ah bah là, ça pourrait être un arrêt de la géomobilité parce que ça arrive en plein milieu de Coblence, ça arrive à une confluence, ça arrive à un endroit, par exemple, pile devant le palais des électeurs de Coblence. » Il y avait un quai qu'on n'a pas vu être utilisé, mais qui est sûrement utilisé de temps en temps. Et en fait, on s'est dit que ça pouvait être utilisé au quotidien parce que c'était pas quelque chose qui avait déjà l'air bouché. Ça n'a pas l'air d'être déjà un réseau qui est très dense, où on peut connaître des embouteillages ou autre chose. En fait, ça permet, en fait, de donner un nouveau calque de déplacement sur le territoire, et ça permet aussi de désengorger les routes existantes, de retrouver une mobilité aussi qui est plus lente. Et cette lenteur, elle permet aussi, du coup, d'apprécier le paysage, d'apprécier aussi le temps qu'on passe dans les déplacements, de réfléchir à ces déplacements aussi, de ne plus faire des déplacements pour tout et pour rien, mais juste de prendre conscience, en fait, de ce déplacement dans le territoire.
Tu voulais dire un truc, Anis ?
Non, vas-y, moi.
Je dis juste un truc là, par rapport au nouveau calque aussi, je pense qu'on l'a vu aussi comme une alternative par rapport à tout le contexte dont on parle sur les risques climatiques. On l'a vu aussi comme une alternative de quelque chose qui est déjà présent, qui est une infrastructure existante et naturelle et qui pourrait rester si jamais il y a certaines choses qui se passent, comme on le voit avec certaines inondations, certains risques climatiques. C'est une infrastructure qui, elle, est naturelle et restera. Et du coup, c'est un réseau qui pourra lui aussi rester si jamais il y a certaines infrastructures qui sont amenées à pouvoir exister à cause d'une crise pétrolière, à cause de certaines choses.
Et juste aussi pour contextualiser un peu, parce qu'on a oublié de le dire, mais en fait, avant même de penser à l'idée de géomobilité, ce qui est venu d'abord, c'était l'idée de faire l'analogie entre le bassin versant, qui était un territoire énorme qu'on avait du mal à appréhender, avec nous, ce qu'on nous a appris et ce qu'on connaît mieux, c'est-à-dire les métropoles, les villes, et en fait de faire l'analogie entre le territoire et une métropole. Et donc là, on a commencé à parler de géométropole. Et ensuite, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a besoin, nous, pour créer une géométropole à cette échelle-là? Et donc là est venue assez rapidement l'idée de la géomobilité, en fait, de relier tout ce territoire à travers un moyen de déplacement qui, plutôt logiquement, en fait, s'est mis sur le Rhin, parce que c'est l'élément central et majeur du bassin versant. Et donc, à partir de là est née l'idée, quoi.
Ouais, et ça vient aussi un peu en réaction avec toutes les décisions politiques et environnementales qui sont sur les transports en général. C'est-à-dire que déjà en France, mais je suis pas sûr en Europe, mais la plupart des trajets en avion qui durent moins de 2 heures vont être de plus en plus supprimés. Et avec un peu la fin aussi de l'avènement de la voiture et aussi de cette question de relier un peu... Enfin, le Rhin, il traverse à la fois des petits villages comme des métropoles, même des euro-métropoles, quoi, comme l'euro-métropole de Strasbourg ou des grandes métropoles allemandes comme Cologne ou jusque des grandes villes européennes comme Rotterdam. C'est aussi un peu ça, c'est de trouver cette alternative-là et qui parlerait même plus de lenteur, quoi. C'est-à-dire que même dans les cartes qu'on a fait, on voit... tous les transports de voies rapides qui se font en Europe, maintenant Strasbourg-Paris, ça se fait en 1h30 en TGV. C'est une rapidité de déplacement qu'on est habitué en fait maintenant à cette vitesse-là et à cette façon de se déplacer. Et là, ce qui est toujours assez intéressant, c'est ce mix un peu fantaisiste ou rêveur entre voyage et déplacement quotidien. C'est-à-dire que même à un certain moment, on n'arrive plus à avoir vraiment la limite entre ce qui est du voyage et ce qui est du déplacement totalement ordinaire et banal. Et c'est ça, je pense, qu'on est bien là-dedans. Et c'est que, si on parle toujours de d'écologie ou même d'énergie en général, il faut savoir que les transports en bateau sont quand même beaucoup moins consommateurs en énergie. Parce que déjà, ils utilisent le courant ou d'autres choses, mais ça utilise aussi beaucoup moins d'énergie, comme le pétrole, qui a besoin d'être moins transformé pour le bateau. Et
pour compléter aussi, c'est qu'on s'est rendu compte avec l'analyse que le réseau fluvial, en fait, est déjà existant et très important, sauf que en fait, il est encore très peu utilisé ou mono-exploité, quoi, pour l'industrie, un petit peu de croisière notamment ici, mais... La plupart, c'est pour les déplacements d'industrie, de containers, de choses comme ça. Et qu'en fait, il est très très loin de sa capacité maximale ou d'une capacité même, je sais pas comment dire...
Tolérable.
Ouais, voilà, moyenne, tolérable. Et que donc, sans en fait venir faire de grosses transformations comme des grandes percées dans le paysage, comme des voies ferrées ou des autoroutes, on peut en fait venir créer de la mobilité facilement en utilisant les ressources qu'on a déjà sur le territoire, quoi.
Et surtout, ce qui était intéressant, en fait, de remarquer ça, c'est que quelque chose qui a été très utilisé en France, parce qu'on a un énorme bassin fluvial, est très peu utilisé et a pas eu son saut au XXe siècle d'utilisation, parce qu'il a été remplacé justement par cette vitesse, par ces trains, ces avions, par ces camions. Ça nous a permis aussi de cette vision un peu décalée et nous, notre pas de côté qui nous dit que, comme disait Gaël tout à l'heure, c'est quand même sur le Rhin, que ce soit pour de la marchandise ou pour des humains, ça transporte une capacité beaucoup plus grande. Ça peut remplacer jusqu'à entre 17 jusqu'à 220 camions pour de la marchandise. C'est beaucoup plus sûr, ça a un taux de pollution moins grand et y a ce côté où... S'il y a une certaine sûreté, il y a beaucoup moins d'accidents en péniche qu'avec tout autre moyen de transport. Et ça permet ce certain ralentissement et justement venir s'accrocher dans le paysage En fait, de voir ce Rhin comme une énorme métropole, par sa taille, pas par la complexité qu'on veut lui amener ou par le bâti qu'on veut lui amener, ça nous permet de dessiner en fait cette nouvelle métropole et de créer un système, enfin de s'accrocher à un système qui est déjà capable et juste de le sublimer et de pouvoir en faire quelque chose. En fait, c'est comme si on avait tous les ingrédients et on essaye juste de faire quelque chose d'assez raisonné et qui nous paraît beaucoup plus logique. C'est ici. Si les climatologues, les écologues nous disent qu'il faut ralentir et qu'il faut qu'on change beaucoup de choses, et on a les ingrédients en face de nous et on essaye juste de faire quelque chose, d'entamer une transition, d'amorcer quelque chose avec notre vision bien sûr, mais notre vision qui recolle tout ce que l'Europe essaye de faire et ce que notre union climatique va pousser encore plus loin. Et c'est de pouvoir créer un monde où on puisse vivre tout en ne le détruisant pas, en fait, tout en ne s'auto-détruisant pas.
Petite phrase de conclusion, du coup, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, en fait, ce qui nous a pas mal aidé à, je pense, à prendre ce sujet-là en première approche du sujet, disons, du bassin versant, c'était aussi qu'il y avait toute la question, du coup, derrière de la... On a une mobilité qui est lente, mais du coup, ça veut dire aussi qu'il faut habiter le long du Rhin, en fait, parce que cette mobilité va nous permettre de, certes, desservir le Rhin, mais de desservir plusieurs endroits qui sont le long du Rhin, mais ça va aussi être des zones où il va y avoir des endroits où on va avoir besoin de se restaurer, de dormir, de juste se dégourdir les jambes. Et ça, c'était aussi un peu le truc qui nous a mis le pied à l'étrier vers le projet.
En fait, sur cette question de complexité, il y a un des points qu'on a soulevé, c'est la question du vivant, qui est, à mon sens, une question très compliquée, parce qu'en fait, le vivant, ça fait appel à quelque chose qui est le plus éloigné de notre travail et de notre métier. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte, et c'est quelque chose qu'on a mis en avant, c'est que dans cette compréhension fine du territoire, il y a aussi l'appréhension de tout le vivant donc, qui s'y développe, y compris non humains, donc animal, végétal, ce genre de choses. Et on considère que c'est également important, en fait, dans cette forme de transition écologique et avec les nouveaux enjeux actuels, de plus seulement, que l'architecte, en fait, il considère plus seulement le milieu humain unique, mais en fait, de considérer un territoire comme étant un milieu de vie et un bassin de vie complet, qui accueille mille et une formes de vie différentes et qu'il faut toutes considérer et toutes mettre à la même échelle. Et en fait, c'est en réaction un peu opposée à cette hégémonie de l'implantation humaine qui on va dire qui ne s'intéresse qu'à nous, mais parce que c'est normal et c'est humain de comme, je sais pas comment formuler ça, mais de penser qu'à soi, quoi. Et donc là, c'est la vision la plus décalée, je pense, qu'on puisse avoir, et c'est pour ça que c'est une des plus compliquées. C'est parce qu'elle nous force, en fait, à prendre le point de vue de quelque chose qui est complètement éloigné, complètement différent de nous, à savoir le vivant, le végétal, ce genre de choses. Et comment est-ce qu'un architecte, ou du moins un écologue, un paysagiste, un urbaniste, il considère dans le travail qu'il fait, non pas simplement la vie humaine, mais une harmonisation en fait sur le territoire de toutes les formes de vie pour qu'elles puissent continuer en fait à se développer et à se pérenniser. C'est vraiment une forme de pérennisation de la vie qui est importante.
Et ça rejoint aussi un peu des notions qu'on a pu aussi aborder pendant nos études, qui peuvent se rapprocher plus à des notions presque de philosophie et de vision et d'approche d'un sujet, qui sont presque cette question de sujet mineur sur un sujet majeur, et qui sont par exemple comment est-ce qu'un sujet qui peut paraître totalement mineur sur l'implantation d'un arbre ou sur la gestion d'une forêt, comment est-ce que ça peut arriver sur un sujet plus grand, qui peut être sur un sujet de gestion d'un territoire, d'approche architecturale. Comment est-ce qu'on peut aussi réussir? Alors, par mineur et majeur, on ne dit pas que c'est moins important ou plus important, c'est juste que l'entrée dans le sujet se fait par quelque chose de plus petit, de plus de peut-être plus sensible et de plus zoomé, et comment est-ce qu'en fait on se rend compte que ça peut toucher plus loin. Ça se rejoint aussi à ce qu'on a pu dire sur les confluences, sur un peu un endroit très proche, très zoomé, très, très générique, et finalement comment est-ce que ça peut parler d'autres choses par la suite, quoi.
Nous, c'était un peu aussi la volonté qu'on avait à travers ce travail, c'était aussi peut-être de sortir un petit peu d'une vision complètement trop concentrée. Donc on a essayé de le faire, après à voir si les leçons qu'on en a tirées, mais c'est d'essayer de se considérer comme en tant qu'humain, comme faisant partie, comme étant un être vivant, mais qui n'a pas plus ou moins de raison d'être qu'un autre être vivant. Et on a essayé d'avoir cette approche-là à chaque fois quand on ne serait-ce que pour avoir une vision sur le territoire. C'était un peu ça qui nous a aidé aussi à partir plus vers notre vision géographique du territoire, et qui nous a permis après de, disons peut-être d'arriver à développer, enfin nous c'était une porte d'entrée aussi vers peut-être une sensibilité, une écoute qui était plus grande. Et donc on a essayé de mettre ça au service de notre projet et d'intégrer ça en fait dans notre boîte à outils d'architecte. Donc voilà.
Et aussi ce qui est là où Aymeric disait que c'était difficile de s'attaquer au thème du vivant, c'est qu'en tant qu'architecte, ce qui est assez déroutant, c'est que en fait on peut imaginer des modes de vie, mais notre métier c'est pas de créer les modes de vie. Ça va être plus de créer les espaces qui permettent en fait ces modes de vie là, quoi. Et donc ça c'est déjà difficile quand on a une vision anthropocentrée. On peut pas anticiper en fait les comportements des personnes, mais on peut créer des espaces, des ambiances dans lesquelles certains usages vont être possibles. Et donc quand on parle de vivant, c'est encore plus dur en fait d'anticiper ce que va faire un animal, quoi. Et donc c'est là où ça devient très complexe effectivement d'attaquer ce genre de sujet en tant qu'archi, quoi.
En fait, il y a plus cette volonté de rendre capable un espace d'accepter une pluripopulation de vivants, et donc comme ce que disait Alice, en fait dans cette vision un peu de cercle vertueux dans lequel on se replace de manière égale face à n'importe quelle autre forme de vie. Considérer que le territoire ou l'espace qu'on va créer ou qu'on va essayer de penser, il soit capable d'accepter toutes ces visions différentes, c'est déjà énorme en soi, et ça permet aussi de créer un terrain fertile pour ne pas avoir de mal à justement faire appel à d'autres disciplines, d'autres visions. En fait, c'est vraiment un premier pas qui a été un peu compliqué pour nous d'enclencher ce décalage de vision. Mais une fois qu'on avait fait celui-ci, on avait presque fait le plus compliqué, parce que une fois qu'on était sorti en fait de notre cadre un peu humano-centré, c'est extrêmement grisant de faire appel à des notions, à des capacités qui sont pas les nôtres, à des savoir-faire. Et donc en fait ça rejoint ce qu'on disait aussi en introduction, c'est que ça a été un peu l'amorce dans notre travail pour nous de faire appel à plein d'autres disciplines en fait qui sont pas les nôtres.
Et si on parle même aussi quand on parle de bassin un peu du vivant et de la vision qu'on a du vivant, et c'est aussi un peu pour ça qu'on parle de ça dans un bassin versant, c'est que c'est aussi des lieux de prédominance d'implantation urbaine et de civilisation, quoi. C'est presque un peu un lieu profondément vivant lui-même, quoi. C'est un peu ces endroits-là où il y a un peu des identités qui se créent, où il y a des espèces même qui sont presque liées profondément à leur territoire, et c'est un peu là aussi à ça qu'on se repère nous en tant qu'humains, quoi. On est vachement ancré à notre territoire, et c'est un peu ça qui nous a aussi fait comprendre que finalement la nature et la culture, c'était qu'il fallait peut-être aussi un peu séparer ces deux notions, et qu'il fallait un peu plutôt trouver une sorte d'équilibre et de lien en fait entre les deux. Et c'est ça aussi cette question du bassin du vivant, et aussi une question un peu existentielle, un peu d'humain curieux qui est d'essayer de comprendre aussi ce qui l'entoure. Et je pense que ce travail-là, nous on le fait en tant qu'architecte, mais tout le monde le fait à son échelle aussi, ce qui est aussi de s'intéresser à ce qui est à côté de lui, et ce qui est aussi un peu et finalement c'est, pour un projet d'archi, c'est assez motivant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres enjeux que simplement des enjeux administratifs ou politiques. C'est qu'on peut aussi trouver plein d'autres choses à faire. Et je trouve que ça, enfin, dans un sens très, 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 très concret, c'est que ça peut nous aider aussi à trouver du travail, entre guillemets, en tant qu'architecte. C'est-à-dire qu'un architecte peut aussi s'intéresser à ces questions-là et se trouver aussi une place là-dedans et agrandir son champ d'action, finalement, et de s'ouvrir des portes et de pas s'enfermer, quoi.
En fait, je pour réagir un petit peu à ce que tu as dit, Aymeric aussi, et puis Gaël, moi, je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais je me dis, genre, peut-être qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'architecture hospitalière, en fait, que ce soit pour les humains, pour plutôt le monde du vivant non humain, et que ça, en fait, ça nous permet, enfin, je sais pas si on peut se permettre ça, mais dans une vision un peu positive de comment est-ce qu'on pourrait faire de l'architecture avec ça, c'est que si jamais on connaît mieux le vivant, en fait, on aurait peut-être moins de soucis aussi à le respecter, à avoir une relation de pas d'utilitarisme, ce serait un peu abusé, mais une relation un peu de donnant-donnant, quoi. Et on verrait qu'il y aurait des bénéfices, en fait, qui iraient dans les deux sens. Et peut-être qu'aussi on aurait moins de distance par rapport aux animaux qui sont moins familiers ou par rapport aux plantes, on aurait une meilleure connaissance ou des choses dans le genre. Donc peut-être qu'en fait ça pourrait nous permettre aussi d'entrer dans une ère un peu plus communicative entre le vivant non humain et les humains. Donc voilà, je pense que ça peut être une vision assez positive de penser l'archi aussi par rapport à ça.
Et moi, enfin, je pense que par rapport à ce que Gaël a dit avant, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur un peu plus sur le fait de quand on a ce regard-là justement par rapport au vivant, ça permet de nous montrer aussi à nous et de peut-être montrer autour de nous qu'on peut faire de l'architecture sans faire de l'architecture pure et dure comme celle justement qu'on nous apprend. Enfin, on sort vraiment juste de l'architecture du pur bâtiment et de sa propre parcelle. On va vraiment regarder ce qu'il y a avant, ce qu'il y a autour, et ça reprend un peu une des notions qu'on a tout au long du projet, qui est le faire avec. Et on fait avec ce qu'on a autour de nous et toute cette part de vivant qui compose le site et le grand territoire.
Juste, ouais, moi c'est pour... par rapport à ce que disait Alice, je pense que ce qui a pas mal alimenté le projet en général, avec cette idée d'intégrer l'ensemble du vivant, c'est qu'on fait on a essayé en tout cas de faire des projets dans lesquels n'importe quel être peut avoir sa place, quoi. Enfin, je prends l'exemple d'une partie de notre projet qui s'intéresse aux barrages hydroélectriques, qui sont des infrastructures assez lourdes, qui ont une réelle conséquence sur le territoire, et où une grande partie des êtres vivants en fait sont même pas pris en compte ou très peu, quoi. Et donc l'idée, nous, c'est d'essayer de faire une intervention où pas seulement les humains mais tous les êtres vivants puissent plus ou moins s'y retrouver, quoi.
Et puis je rebondis peut-être une dernière fois encore sur ce que disait Alice. Il y a aussi ce côté où en fait à travers le vivant on comprend en fait une source quasiment infinie de connaissances auxquelles on n'a pas encore accès, qu'on comprend pas et qu'on maîtrise pas encore totalement, notamment sur en fait l'intégration du territoire. Et c'est vraiment le sujet principal qui nous intéresse. Et en s'intéressant au vivant, en fait, il y a cette espèce de foisonnement encyclopédique quasiment de chaque espèce qui elle est complètement adaptée à son territoire et elle a, on va dire, l'héritage de millions d'années d'évolution notamment sur le végétal ou sur la question des mobilités avec les mammifères, ce genre de choses. Donc en fait il y a un côté où on a tellement à apprendre, nous, dans cette vision d'appropriation, enfin pas d'appropriation du territoire mais d'harmonisation du territoire que le vivant nous apporte, parce que lorsqu'on arrête de placer l'humain au sommet de la chaîne, on a des milliers d'années d'évolution en fait qui ont encore énormément de choses à nous apprendre sur une harmonisation du territoire.
dans l'usage du territoire qu'on fait un peu de ce bassin versant du Rhin, on a aussi remarqué que c'était, enfin dans l'usage que nous on en faisait et que la population de ce bassin versant en faisait, c'est que c'était un bassin assez important en Europe dans sa position géographique, mais aussi dans la population qu'il avait. Parce que si on reprend dans le contexte qu'on a créé aujourd'hui, dans l'union climatique qu'on a nous, il y a 500 millions de personnes, alors qu'aujourd'hui, actuellement, il y a 446 millions d'habitants dans l'Union européenne. Et nous, notre géométropole, donc le bassin versant du Rhin, ça représente 70 millions de personnes. Donc sa position, elle est quand même très importante, et géographiquement, et au niveau de la population. Et il est, dans ce bassin versant du Rhin, il y a aussi une des zones de l'Europe les plus denses, avec justement la zone de la Banane Bleue qui regroupe toute la Ruhr jusqu'aux Pays-Bas avec Amsterdam, Rotterdam, La Haye. Et on a des très grosses villes en Allemagne notamment, avec Mannheim, on retrouve aussi Strasbourg en France et Bâle en Suisse. Et c'est vraiment une population très importante, avec des métropoles relativement importantes le long du Rhin.
Et on s'est aussi rendu compte que la plupart de ces métropoles, en fait, vu qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, le Rhin, c'est pas tout le temps, mais en grande partie, il a un statut de frontière. Donc les villes, elles sont souvent proches du Rhin, mais ont un rapport qui est assez distant avec le Rhin. Notamment, beaucoup de villes, le rapport qu'elles ont avec le Rhin, c'est l'industrie, les ports industriels. Ici...
Désolé.
Ici, c'est pas le cas à Koblenz, comme on l'a dit, mais c'est peut-être une des exceptions, où il y a Bâle aussi. Mais la plupart du temps, les villes sont quand même assez éloignées. Et donc nous, avec le projet qu'on a de remettre le Rhin vraiment au centre de la géométropole, de changer un peu le statut qu'il a, on s'est posé la question de maintenant qu'est-ce que ça implique aussi au niveau des modes de vie, quoi. Comment est-ce qu'on va habiter au bord du Rhin? J'ai pas de fin à cette phrase.
Mais comment est-ce qu'on va habiter au bord du Rhin, et comment est-ce qu'on va habiter aussi sans cette notion de frontière, que ce soit justement ce qu'on disait tout à l'heure que le Rhin redevienne un élément central et plus cet élément séparant, même s'il est un élément séparant géographique, on lui a donné aussi au cours de l'histoire, et c'est un peu le parallèle qu'on fait un peu tout le temps au cours de ce travail, c'est le parallèle entre l'histoire qui a dessiné l'Europe et la géographie qui la dessine aujourd'hui. Et la géographie qui la dessine aujourd'hui, nous, on replace le Rhin justement au centre de ça, et c'est plus la même frontière qui est dessinée, par exemple, entre la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Allemagne, etc. etc.
Et du coup, comme on l'a abordé un peu dans l'introduction, ou comme ce que vient de dire Tom, avec cet aspect d'importance géographique, il y a vraiment cette idée de faire avec le territoire et pas contre. Et donc là, avec le travail de l'usage du territoire qu'on a eu, c'est vraiment de se rendre compte comment est-ce qu'on peut venir habiter en fait ces paysages et ces territoires en positivant en fait les enjeux climatiques et les risques qui sont liés à ceux-ci. Et donc, par exemple, à Koblenz, donc sur les inondations, qu'on retrouve aussi dans les Pays-Bas, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment cette importance dans l'usage du territoire de faire avec et d'avoir une vision positive de l'intégration qu'on a dans ce milieu, en fait.
Et c'est vachement autour de ça qu'on a voulu créer nos projets, et c'est surtout aussi la chose la plus importante à retenir, c'est pas les projets qu'on a créés en soi, parce que les projets c'est presque des applications, et montrer le champ des possibles qu'on a créé, parce que ce qu'on vient de dire, c'est ce qui peut être appliqué sur tous les bassins versants, que ce soit du Rhin au Nil au plus petit des affluents. C'est faire avec la géographie et le territoire qu'il y a autour. C'est pas créer une scierie dans les montagnes parce qu'il y a des arbres. C'est pas créer un port parce qu'il y a une grande ville. C'est, on va dire, un peu écouter et l'histoire et la géographie et le ressenti qu'on a dans un territoire pour en créer quelque chose de fort, et qui, en fait, comme une pièce de puzzle qui vient rentrer, qui a sa place, en fait, et ne pas forcer quelque chose sur la géographie, ne pas venir faire des percées, ne pas venir le système qu'on veut créer, c'est le système du faire avec et d'écouter le territoire, la géographie et l'histoire, et non pas quand il y a une forêt, il faut une scierie, quand vraiment dans ce sens-là, des questions qu'on nous a déjà posées. Est-ce que ça va être systémique et on peut faire pareil sur le Rhin, sur la Seine, sur... On peut faire pareil, mais pas les programmes qu'on a amenés, pas, mais plutôt la démarche qu'on a eue. C'est la démarche qu'on doit avoir, c'est pas le projet en lui-même qu'il faut venir implanter dans d'autres zones.
Okay. Aussi pour réagir à cette histoire de faire avec, c'est le Rhin a connu des énormes canalisations et du coup c'est effectivement facile de vouloir s'implanter dessus parce que bah du coup c'est déjà fait. Et en fait cette histoire de c'est déjà fait. C'est pas dans le sens où on continue ce que les autres ont fait, mais on l'utilise à son potentiel maximum. Et aussi de ne pas écrouler les choses qui ont été faites, mais de les garder, de les utiliser, de les améliorer, ou de simplement ne pas aller à l'encontre de ce qui a été fait avant, parce que c'est une perte d'énergie, de temps. Et du coup, de vraiment... prendre le territoire pour ce qu'on en a fait jusque-là et en fait du coup d'intégrer l'histoire à la géographie, pas seulement prendre la géographie et l'utiliser telle quelle, mais justement prendre toute l'histoire qu'il y a avec.
Ouais, et puis ça fait partie des lectures en fait qu'on a fait et qui nous ont inspiré et aidé en fait dans le travail qu'on mène et qu'on a mené et qu'on va probablement continuer à mener dans le futur. C'est vraiment cette idée de tirer le meilleur apprentissage et la meilleure intégration possible en fait de ce que le territoire peut apporter en termes de ressources, de savoir et de possibilités. Et ça se fait tant au niveau naturel qu'au niveau humain. Donc c'est vraiment arriver à puiser le maximum de choses dans la compréhension la plus fine possible d'un territoire pour pouvoir en ressortir la chose la plus harmonieuse possible et la plus complexe, dans le sens où elle n'est pas compliquée, mais dans la complexité de ce qu'elle a entre guillemets de beau et de naturel, c'est-à-dire quelque chose qui répond à tous les enjeux d'un territoire.
Il y a sur ce territoire, sur ce bassin versant du Rhin, comme sur tous les autres bassins versants du monde, il y a des lieux de rassemblement qui sont presque naturels et qui sont aussi des lieux de rassemblement d'éléments géographiques. C'est les confluences. Les confluences, c'est le lieu de rencontre entre un fleuve principal et son affluent. Et sur le Rhin, on a décidé à un moment donné, nous, d'utiliser ces confluences comme lieu de projet, comme point où on va justement regarder le territoire. On va ensuite dézoomer et rezoomer sur ce territoire pour pouvoir en apprécier sa complexité, justement. Et c'est justement sur ces confluences qui sont des lieux de rencontre, qui sont des lieux où la population va se retrouver pour des raisons particulières, que sont le commerce, les échanges, etc. Parce que c'est des endroits qui permettent de croiser, de rassembler un peu le territoire du bassin versant.
Et aussi, les confluences, nous, dans notre projet, c'est aussi ce qui nous a permis de donner une épaisseur en fait à notre intervention, c'est-à-dire de pas seulement se cantonner au linéaire qu'est le Rhin et à ce qui se passe quelques mètres autour, mais aussi de pouvoir dialoguer avec tout le reste du territoire via tous les, je sais pas combien, les nombreux affluents quoi qui sont tout au long du bassin versant et qui irriguent entièrement le territoire. Et donc c'est vraiment les points un peu stratégiques, comme disait Tom, de regroupement, et les points aussi qui permettent, dans l'autre sens, de venir en fait toucher l'intégralité du bassin versant.
En fait, c'est s'appuyer sur le réseau complet, de la même manière que le développement humain il se fait par un système de réseau, comme une maille. En fait, là, on met en avant la maille géologique et naturelle qui irrigue le territoire, hein, on l'a déjà dit avant.
Les capillaires.
Capillaires, exactement.
Donc ensuite, en étudiant de plus près l'ensemble de la géométropole, en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt c'est une grande entité, mais pas seulement, c'est aussi une sorte de réseau de plus petites identités à l'échelle régionale ou locale, ou du coup à l'échelle des morphorégions, et qui en fait vont se caractériser en fonction de l'implantation humaine, de l'activité qu'on va faire du territoire, la manière dont on va l'utiliser, de l'attitude qu'on va avoir par rapport à ce territoire aussi. Et en fait, ça, on s'est rendu compte que c'est vraiment propre à chacune des morphorégions, quoi, que même dans cette grande géométropole, on a peut-être une infinité de manières d'utiliser le territoire, quoi. Et
ce qu'on essaie de montrer, je pense aussi, et de dessiner un petit peu dans le projet, c'est que on essaye à chaque fois de traiter chaque projet pour qu'il ait un lien à l'échelle de la géométropole, qu'il ait un lien avec les différentes morphorégions, mais qu'on puisse aussi avoir une échelle assez locale, un lien direct avec son territoire. Et les formes qui en résultent, elles ont justement normalement ce lien avec le territoire qu'on définit de la géométropole. Ce qu'on essaie de faire, je pense, c'est on a vraiment ce lien à l'échelle, à la grande échelle, à l'échelle du grand territoire, et on essaie de redéfinir un peu aussi au niveau du localisme, un peu plus précisément, plus précisément sur chaque région, sur chaque morphorégion.
Un peu du coup pour parler vraiment du Rhin, quoi, on a un peu réussi à définir plusieurs morphorégions qui existent déjà, mais sauf qu'elles existent parce que c'est la géographie un peu qui les donne, mais nous ce qu'on a aussi essayé de rattacher, c'est l'architecture qu'il y a sur ces territoires-là, les usages et les différentes manières de construire. En partant de la source, on a un peu le Rhin alpin qui s'étend des Alpes jusqu'au lac de Constance, quoi, on va dire ça. Ensuite, le Rhin alpin, c'est assez simple, c'est la partie la plus montagneuse du Rhin et qui est assez peu peuplée, mais qui est vraiment très caractéristique dans sa géographie et dans ses usages. Et c'est là aussi un peu où on a pu parler un peu de sujets comme l'usage de la montagne en tant qu'usage touristique, mais aussi on essaie un peu de revenir un peu à des questions de plutôt aussi de mixité de ces lieux-là, en parlant ici plutôt de production forestière. Et ça, c'est un peu des questions qu'on va essayer un peu aussi de décliner sur tout le projet, c'est comment est-ce que dans chacune de ces morphorégions, on essaie un peu de voir ce qui s'y fait et comment est-ce qu'on peut réussir un peu à les mixer, à les complexifier avec d'autres sujets et d'autres façons de penser. Et aussi par la suite, il y a le Haut-Rhin qui s'étend entre le lac de Constance et Bâle, le Rhin supérieur entre Bâle et on va dire Mayence, quoi, au nord. Ensuite, le Rhin moyen qui est un peu le Rhin romantique qui s'étend jusqu'à Coblence, quoi, finalement, jusqu'un peu plus au nord de Coblence. Le Rhin inférieur qui lui aussi nous a vachement. Enfin, qui était très marquant parce que là il y avait vraiment une forte relation entre le territoire, la géographie et l'usage qu'on en faisait. Et du coup, ce qui nous a aussi apporté beaucoup de matière pour le projet, c'est la région du Rhin où en fait le territoire qui a été le plus exploité dans son sous-sol, qui est un peu l'une des zones les plus industrialisées, travaillé en sous-sol en Allemagne. Et ensuite une autre région très caractéristique de tous les fleuves qui est le delta du Rhin, et là qui est un peu l'ensemble des Pays-Bas finalement. Et donc après chacune de ces régions nous a permis à la fois de trouver des sujets et une façon de répondre dans chacun de ces endroits. Et c'était à la fois pour on n'essayait pas de réduire une morphorégion ou un territoire à une seule question, mais c'était plutôt d'essayer d'en trouver une assez juste et représentative, mais qui n'est pas une solution en soi, quoi. C'est plutôt une manière de répondre au territoire et comment l'analyser, le décrypter et le complexifier avec un projet d'architecture ou d'aménagement du territoire finalement.
Et ces morphorégions, elles nous permettent justement, avec le fait de regarder ce qui s'y passe à une échelle beaucoup plus petite, de voir l'implantation humaine et le territoire, ça nous a permis de... Ça ne nous permet pas de faire un retour en arrière, ce qu'on n'envisage pas du tout, mais ça nous aide à comprendre ce que les gens ont déjà fait avant. Parce que même si il y a assez longtemps il y a eu toute la canalisation du Rhin ou les choses comme ça, c'était des travaux, on va dire, exceptionnels, et c'est devenu moins exceptionnel maintenant. On construit à tout va en ne respectant pas ni le territoire ni l'implantation de beaucoup de choses. Et nous, c'est là-dessus qu'on voulait avoir un retour. C'est ça, ce retour au savoir-faire, aux choses beaucoup plus simples, enfin, qui, on va dire, coulent plus de sources, les choses qui n'ont pas besoin de dépenser énormément de matière grise ou énormément de matière première. Dans l'idée, en tout cas, c'est, on a vu aussi que c'est assez compliqué de mettre ça en œuvre, une certaine frugalité dans le projet ou dans l'intervention, mais c'est vers ça qu'on tend, par justement regarder le territoire, ce qu'on y a déjà fait, ce qu'on pourrait encore y faire, et lier un peu futur et passé et présent, et permettre de créer quelque chose de beaucoup plus viable et beaucoup plus stable.
Et sur cette question de passé-présent, on va notamment à Coblence ici, genre quelque chose qu'on remarque énormément, c'est la présence, il y a énormément de châteaux en fait au bord du Rhin, et cette analyse entre guillemets de forme matière territoire, il y a vraiment aussi toute la question de l'appréhension du territoire, et donc on n'a plus du tout la même approche en fait de celui-ci, et donc on le voit bien avec les châteaux en fait qu'on retrouve tout le long du Rhin romantique. Il y a vraiment cette idée de se mettre en retrait en fait de zones qui peuvent être vulnérables, d'avoir une position de dominance en fait sur un territoire, de prévoir l'attaque d'ennemis, d'envahisseurs, ce genre de choses. Là où maintenant en fait il y a un développement de plus en plus grand, plutôt au bord du Rhin, maintenant qu'on est dans une ère beaucoup plus pacifique entre guillemets. Et donc en fait il y a aussi cette analyse là de l'évolution au cours de l'histoire en fait, de l'appréhension du milieu et de la manière dont on voit les choses en fait, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ça évolue en fait de cette manière là.
Ouais, et nous en fait on voit pas notre travail comme une attitude passéiste en fait envers les sujets qu'on traite. Mais simplement, aujourd'hui, la plupart en fait, des enjeux qu'on a relevés avec le projet sont résolus de manière high-tech, beaucoup, en utilisant les nouvelles technologies. Et c'est souvent des solutions qui n'en sont pas vraiment, parce que c'est très énergivore, ça pollue, ou ça déplace simplement le problème dans des régions que nous, on ne côtoie pas. Donc on a l'impression que ça n'existe plus, alors que ce n'est pas vrai. Il y a en fait des savoir-faire on a l'impression en fait que en prenant comme exemple certaines attitudes passées, en fait on en retire des leçons qui sont vachement plus locales, vachement plus en adéquation avec le territoire. Et donc l'idée c'est pas de reprendre ça tel quel ou de retourner là-bas, mais de réinterpréter ça, de réutiliser ça de manière à nous répondre aux questions qu'on se pose, la manière qui nous paraît la meilleure, quoi.
Et puis ben juste pour totalement d'accord avec ce que tu as dit, mais pour juste un petit complément, c'est en fait la notion de forme matière territoire, c'est aussi la chose qu'on s'est on l'a plutôt pris du côté low-tech, et c'est en fait pour aussi utiliser l'intelligence du savoir-faire qui est inscrit dans le temps sur un territoire, qui nous permet après de retrouver une pertinence dans les projets qu'on va faire de manière actuelle. C'est un peu une réinterprétation. Enfin, juste un minuscule complément de ce que tu disais, mais voilà.
Et peut-être juste du coup pour conclure un peu, enfin je sais pas s'il y a quelque chose à dire encore, pour conclure sur cette partie-là aussi, peut-être que pour nous c'était aussi l'occasion de raconter un peu aussi des histoires sur les lieux. Par exemple, chacune de ces morphorégions nous permettait aussi de parler d'un passé ou d'un vécu ou de quelque chose qui a eu. C'est-à-dire qu'à certains moments, on a beaucoup aimé, par exemple, regarder des vieilles photos d'époque de ces endroits-là, de savoir ce qui s'est fait dans ces endroits. Par exemple, la région de la Ruhr en Allemagne, ça invoque tout un imaginaire autour d'un passé minier, de toutes ces architectures minières qu'ils ont pu avoir. C'est des choses qui nous ont aussi fascinés et qu'on trouve très impressionnantes. Et c'est peut-être ce prétexte-là aussi, c'est de raconter des histoires dans les projets.